France Inter. Le 18-20, Alexandra Bensaï.
Pour certains, c'est tranché. L'entreprise, elle était obligée de fermer. Obligée. Mais d'autres, ce soir, ils se posent la question. La boule au ventre. On les attend à la caisse du supermarché ou alors au volant de leur camion pour assurer les livraisons. On entend aussi que les chantiers pourraient reprendre, que certaines usines pourraient rouvrir. Et puis, on les voit toujours, hein, ces jeunes livreurs à scooter. Alors, on s'interroge. Après le choc du confinement, après quelques jours d'adaptation, il faut ce soir faire le point sur les droits et les devoirs, sur les mesures de protection, sur les métiers essentiels à notre société, à notre économie. Demain, c'est lundi, alors travailler ou pas, on en discute ensemble ce soir. Le téléphone sonne et là, on décroche tout de suite.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Benoît, je vois que vous nous appelez de la Manche. Vous êtes avec nous, soyez le bienvenu dans le téléphone sonne.
Merci beaucoup, bonsoir.
Vous avez une question, oui. Benoît.
Oui, tout à fait. Moi, je suis artisan charpentier, donc dans la Manche, à la campagne. Et donc, avec mon équipe, à la suite de l'annonce du président en début de semaine, on a décidé de suspendre les travaux. Voilà, pour la journée de mardi. Et dans la journée, tous nos fournisseurs nous ont appelés au fur et à mesure pour nous dire, on ferme, on est fermé. Donc, moi, j'étais obligé de mettre mon équipe en arrêt, donc en chômage pour la semaine. Et toute la semaine, on a eu des injonctions très contradictoires entre les organismes syndicats, organismes de santé qui nous disaient surtout ne reprenez pas le travail, prenez soin de vous, faites attention, on n'a pas les protocoles. Et d'un autre côté, le ministère, les gouvernements qui nous disaient bossez, allez-y, n'ayez pas peur, bossez, de toute façon vous n'aurez pas le droit au chômage partiel. Donc la semaine a été un peu compliquée. Il y en a une nouvelle qui commence. On n'a toujours pas de réponse claire et nette. D'autant plus que mon activité n'est pas du tout, on va dire, primordiale pour la vie du pays. Je suis pas de la santé, je suis pas du transport.
Alors qu'est-ce que vous faites, Benoît? Vous faites quoi? Des gros, des petits chantiers? Artisan charpentier, ça veut dire quoi?
Artisan charpentier, je fais des petits chantiers, en l'occurrence que du particulier, de la construction de maisons, de la rénovation, des terrasses, des cabanes également.
Et vous avez combien de salariés?
J'ai 3 salariés.
D'accord, donc vous êtes tous les 4 pour faire des chantiers chez des particuliers?
Exactement, voilà. Donc moi j'ai appelé tous mes clients. Mes clients sont pour la plupart en accord avec moi. J'ai même tous en accord avec moi. L'architecte avec qui je travaille également, pareil, est en accord avec l'arrêt. C'est même qui m'a proposé pour un chantier. Ce qui fait que pour l'instant, je dirais que mes chantiers ne peuvent pas redémarrer dans le quart de seconde. Après, ils redémarreront, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on a un protocole pour faire la route tous ensemble? Parce que le matin, on a une vraie quart de route suivant les chantiers dans la même cabine de camion. Les outils, on les partage, on porte des morceaux de bois ensemble, le même morceau de bois des fois, on pousse sur les mêmes morceaux, on monte à la même échelle, on monte à la même échafaudage également.
Benoît, on va poser, on voit la situation. Non, mais on voit la situation, je n'êtes certainement pas tout seul dans le même cas.
Hein. J'imagine, non, mes collègues, c'est pareil, mes collègues charpentiers, j'en ai parlé avec tout le monde a arrêté quoi pour l'instant. Donc.
Restez en ligne, on va poser la question. On a deux invités ce soir. Je salue, vous restez en ligne avec nous, hein, Benoît. Je salue la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonsoir, merci d'être avec nous.
C'est un plaisir. Bonsoir monsieur.
Attendez, je vais saluer également la deuxième invitée et puis je vous laisse répondre mieux. Mais je vous en prie Muriel Pénicaud. Là, on apprend tous un peu la technique là. Hein. Je salue notre seconde invitée qui est donc philosophe et sociologue. Bonsoir Dominique Méda.
Bonjour.
Bonjour et je vous laisse vous dirigez l'Institut. Alors aidez-moi parce que je perds ma feuille. Voilà, l'Institut de recherche interdisciplinaire. En sciences sociales
de l'université. En sciences sociales à l'université Paris-Dauphine.
Voilà, allez, ça y est, j'y suis moi aussi, la technique est là. Muriel Pénicaud, Madame la Ministre, que répondre à Benoît, artisan charpentier, 3 salariés? Il a eu des messages, dit-il, contradictoires, il ne sait pas quoi faire ce soir. Les chantiers.
D'abord, je voudrais dire qu'on est en train de travailler dans chaque secteur, avec les professionnels du secteur, pour voir, comme vous l'avez dit, monsieur, quels sont les bons protocoles pour pouvoir continuer à travailler en toute sécurité pour les salariés et les clients. Vous l'avez dit, souvent sur un chantier, on part ensemble dans la même camionnette. C'est sûr qu'on ne peut pas être 6 les uns à côté des autres, ou même 4. Donc ça veut dire que si on va sur le chantier, ben, faut peut-être y aller en plusieurs véhicules, rembourser l'essence. Comment on fait pour être à 1 mètre de distance? Comment on fait pour pouvoir se laver les mains? Il faut un point d'eau ou il faut du gel pour pouvoir se laver les mains? Si on... Et donc aujourd'hui, ce qu'on a convenu hier avec tous les professionnels du bâtiment, de l'artisan à la grande entreprise et aux travaux publics, c'est qu'on allait travailler. Ils vont nous proposer demain des protocoles pour les métiers qu'on va approuver du point de vue de l'administration pour que on puisse vraiment se dire avec ça les salariés sont protégés, pour que les artisans ou les grands employeurs dans le bâtiment puissent dire bah là on peut y aller et là il faut mieux pas y aller. Je vais donner d'autres exemples. On vient de passer un protocole pareil sur les chauffeurs routiers. Il faut des conditions de sécurité. Moi, je suis ministre du Travail. Mon premier but, c'est de protéger les salariés. La grande distribution a mis en place des protocoles, par exemple pour les hôtesses de caisse, mettre un plexiglas pour se protéger et puis évidemment pouvoir se laver les mains, le gel, une pause toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc métier par métier, on est en train de le définir. C'est vrai que les premiers jours, vous avez raison monsieur, c'était un peu on y va, on n'y va pas, à quelles conditions. Là, c'est en train de s'organiser et il faut le faire métier par métier puisque vous l'avez très bien montré pour la charpente. Selon les métiers, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. Alors on va pas travailler comme avant. On va travailler moins. Il y a des activités qu'on fera pas. Il y a des activités qu'on fera, mais différemment.
Mais donc ce soir, Muriel Pénicaud,
Si vous ne pouvez pas travailler, je voulais rassurer Benoît. Évidemment, vous avez droit au chômage partiel, qui n'est pas un chômage, qui est en fait, vous continuez à payer vos salariés au SMIC s'ils sont au SMIC. À 84% de net sinon, et le ministère du Travail vous remboursera ses salaires. Ça marche pour dès le premier salarié, ça marche aussi pour les apprentis, je le dis. Donc évidemment, si, ayant vu toutes ces conditions de sécurité, vous ne pouvez pas travailler, vous aurez droit au chômage partiel qui vous remboursera l'intégralité des indemnisations que vous allez donner à vos salariés.
On est content de l'apprendre parce que c'était pas le message exprimé cette semaine sur le BTP par rapport au chômage partiel. C'était un peu.
On a déjà 11 000 entreprises du bâtiment qui sont au chômage partiel là. Il y en a donc c'est déjà parti. Mais donc, vous avez raison. Cette semaine, le temps de s'ajuster avec les professionnels. Il y a eu quelques jours un peu de flottement. Maintenant, on est au clair. On est tous d'accord. Donc je pense que ça va permettre de rassurer les artisans et les salariés qui s'interrogent comme vous.
Muriel Pénicaud, les salariés des chantiers, c'est quoi? C'est 1 200 000 salariés, c'est ça?
Alors oui, environ.
Est-ce aujourd'hui, que toutes leurs activités sont nécessaires?
Alors, juste avant ça, j'ai oublié de dire quelque chose de concret qui est important, parce que comme il y a eu quelques jours de flottement, toutes les demandes de chômage partiel pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur, vous avez 30 jours pour la faire, et à titre rétroactif, on le prendra en charge. Hein, donc pas d'inquiétude, pas de stress, là il y a eu quelques jours de flottement, ça s'est régularisé après. Alors oui, est-ce que tous les secteurs sont importants et essentiels? Ça c'est une bonne question.
Par exemple, sur la charpente, il y a un syndicat, la CGT Construction Bois Aménagement, qui dit non, à part fabriquer des cercueils et maintenir les centrales nucléaires, quelle est la nécessité de faire des petits chantiers chez des particuliers? Voilà en gros la question. C'était aussi celle de Benoît.
D'un peu longue, mais je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est qu'un service économique minimum ou des sujets essentiels. Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, elles sont légitimes, et donc il y a de l'inquiétude des salariés, des employeurs sur le sujet. On va être tous d'accord que tout ce qui est nécessaire à l'hôpital, à l'alimentation, à l'énergie, à l'eau, à l'électricité, au transport, ça fait beaucoup de monde, hein. Ça va être nécessaire. Mais ce qu'on voit pas toujours dans la vie quotidienne, c'est qu'en fait, ces métiers, ils sont souvent interdépendants. C'est toute une chaîne. Je vais vous donner un exemple. On va être d'accord qu'il faut que les médicaments arrivent à l'hôpital, c'est une priorité absolue. Pour ça, il faut qu'il y ait un laboratoire qui fonctionne. Il faut qu'il y ait une usine avec des ouvriers qui vont mettre en place, faire fabriquer le médicament. Mais il y a une autre usine qui fait du carton d'emballage. Elle se croit pas forcément essentielle. En fait, elle est essentielle parce qu'elle va transporter, elle va faire les conditionnements pour le médicament comme pour la farine du boulanger. Et puis après, il y a le transporteur. Là, les médicaments, c'est dans un camion frigorifique. C'est pas n'importe quelle compétence. Il faut que quand le chauffeur routier s'arrête sur la route, que les aires d'autoroute soient ouvertes, qu'il y ait l'essence, mais aussi que les stations soient propres, qu'il puisse se laver les mains. Donc que les services de propreté puissent agir. Et ensuite, quand il arrive à l'hôpital, donc il lui faut de l'électricité. L'électricité, je vais vous donner un métier auquel personne ne pense. On pense bien sûr à EDF. Mais est-ce que vous savez que les élagages, c'est essentiel? On est en plein printemps. Les arbres poussent. C'est la saison où on fait plein d'élagages. Si on les fait pas, dans 15 jours, les arbres auront poussé, ils vont faire tomber les fils électriques. Il y a des pans entiers de la France qui n'auront pas d'électricité.
Mais alors,
comment on va faire?
Mais alors,
c'est
Muriel
juste pour
Pénico,
vous dire que c'est pas simple de définir ce qui est essentiel ou pas, parce qu'en fait, tout le monde est utile. Alors, il y a des choses qui peuvent attendre. Hein. On peut ne pas fabriquer de vêtements pendant quelques semaines. Mais justement, il y a des usines de textiles qui ont dit, ben, nous, on va pas faire de vêtements. Mais comme on a des tissus, on peut faire des tissus pour les masques. Voilà.
Alors, donc, on va aussi.
C'est là où ça se fait sur le terrain. Il faut en discuter avec les syndicats, avec les salariés. Et je crois qu'il faut le faire pas par décret, par grande déclaration, mais il faut le faire de façon très pragmatique. La construction, le bâtiment, en ce moment, il y a un hôpital à construire, il faut le construire.
On va demander aussi l'opinion sur ce travail essentiel. Hein. Quels sont les emplois essentiels à notre société, peut-être à notre économie, à Dominique Méda, qui est aussi au bout du fil et qui est philosophe
merci.
Et sociologue. Allez-y.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais intervenir sur ce qu'on vient de dire, parce que moi, il me semble quand même qu'il y a une contradiction gigantesque entre les différentes consignes qui sont données par le gouvernement. Je veux dire, d'un côté, on nous dit que le virus est extrêmement grave, et de l'autre côté, on nous dit quand même qu'on peut globalement continuer à travailler. Par exemple, j'ai entendu Bruno Le Maire, dans la discussion sur la loi de finances rectificative il y a quelques jours, dire, ça m'a paru un chiffre absolument invraisemblable, que 15% des salariés allaient passer en chômage partiel, que 40% pouvaient travailler en télétravail, mais que 45% travailleraient comme d'habitude. Ça me semble extrêmement grave. Regardez ce qui se passe en Italie aujourd'hui. On vient de ramener vraiment les activités à ce qui est tout à fait vital. On sait que l'organisme qui s'occupe des entreprises, le syndicat patronal, a souhaité au maximum continuer à travailler en Italie. Et on voit bien les résultats que ça a donné. Donc, Moi, je pense, si vous me permettez, hein, que la situation est quand même très grave et qu'il faudrait réduire absolument les activités au maximum à ce qui est tout à fait juste vital, juste essentiel, sans parler d'activités imbriquées, comme on nous le dit depuis quelques jours, et que ça permettrait de protéger les personnes, parce qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas protégées. On le sait bien, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, donc on envoie des gens vraiment dans des situations épouvantables.
Alors, on va demander à Muriel Pénicaud et puis ensuite on retournera au standard. Muriel Pénicaud, on a énormément de messages d'appel sur ce premier point qu'a aussi souligné Benoît tout à l'heure, notre auditeur Charpentier dans la Manche. Est-ce que ça n'est pas une injonction paradoxale? Restez chez vous parce que ça sauve des vies, mais allez travailler.
Non. On est en période de crise. Donc, de toute façon, on va pas travailler comme d'habitude. Hein. On va pas vivre comme d'habitude. On vit pas comme d'habitude là, depuis 8 jours. C'est la galère un peu pour tout le monde, qu'on aille travailler, qu'on travaille pas. Tout le monde fait des efforts, et je voudrais saluer tous les Français qui font des efforts. C'est pas facile non plus d'être à la maison et de faire l'école tous les télétravaillants. Tous les parents voient ce que je veux dire. C'est difficile d'aller travailler, on a peur. Donc, ce qu'on dit, et ce que disent les autorités médicales, qui pour nous est la boussole, c'est la boussole. La boussole, c'est la science, c'est la médecine. C'est que, en gros, on peut sortir pour 3 raisons. Parce qu'elles sont essentielles au bien commun, à la vie des gens. On sort pour se nourrir, pour acheter de quoi. Donc ça suppose qu'il y a toute la chaîne avant l'alimentaire qui marche, de l'emballage au transporteur, à la grande distribution, à la caissière, parce que sinon vous ne pouvez pas aller acheter votre alimentation. On sort deuxièmement pour se soigner, bien évidemment. Et on sort pour travailler, si c'est possible, et si effectivement c'est important. Mais ce que je dis, c'est que on va pas travailler. Tout le travail ne va pas avoir lieu. Il y a plein de travaux qui n'ont pas lieu aujourd'hui.
Est-ce que
chômage
ça veut dire
partiel,
est-ce
en
que...
une semaine, moi j'ai eu des demandes de 31 000 entreprises pour 670 000 salariés.
Est-ce que ça vous pensez que 45% Est-ce que vous pensez 45% c'est le chiffre que citait Dominique Méda. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? 45% travailleront comme d'habitude.
Non. Personne ne travaillera comme d'habitude. Parce que ceux qui vont travailler, ils ne travaillent pas comme d'habitude. Ils sont à 1 mètre de distance de leurs collègues. Ils se lavent les mains tout le temps. Il faut la distance sociale, qu'on soit dans un bureau, dans une usine, dans un entrepôt. J'ai appelé le DG d'Amazon, justement, pour qu'il traite le sujet avec ses syndicats, pour trouver des modalités dans les entrepôts. Pour les livreurs, ils peuvent pas être en contact avec le client. Il faut qu'ils déposent leurs paquets devant pour pas les exposer ni s'exposer. Personne ne travaille comme avant. Et d'ailleurs, on travaillera de fait moins et différent. Mais en même temps, il faut assurer la continuité.
Allez, on va au standard. C'est le téléphone sonne. On a Virginie qui nous appelle. Virginie, vous êtes dans le Morbihan. Bonsoir.
Oui, c'est ça, oui, bonsoir.
Et vous
bonsoir.
Travaillez, vous fabriquez ou vous fabriquez des voiles de bateau?
C'est ça, je fabrique des voiles de bateau dans le Morbihan. Et en fait, du coup, la semaine passée, donc mardi dernier, le patron nous a dit, vous rentrez chez vous, vous rentrez chez vous, on va se mettre au chômage partiel. Et j'ai eu un coup de téléphone de mon patron dans le week-end me disant que le préfet mettait la pression sur les entreprises pour que le préfet du Morbihan, pardon, mettait la pression sur les entreprises pour qu'ils reprennent un minimum de production pour pallier à la. Excusez-moi, je suis un peu
émue d'être avec nous. Donc, vous, ce que vous dites, c'est vous pensez, vous avez entendu, vous êtes sûr que la préfecture.
Alors,
d'où ça vient cette info?
La préfecture du Morbihan a, le préfet du Morbihan a écrit une lettre au Morbihan, aux Morbihanais et aux Morbihanaises, disant qu'il fallait reprendre un minimum de production afin de pallier au pire fléau, au deuxième fléau, c'est la pire récession du siècle.
D'accord.
Voilà. Donc, je fabrique des voiles de bateaux pour des bateaux qui sont cloués dans les ports, qui ne peuvent pas sortir puisqu'il y a confinement. Donc, j'ai entendu Muriel Pénicaud juste avant. Est-ce qu'on est vraiment indispensable à la vie du pays? Voilà, ma question est là.
Et Virginie, on va la poser, votre question. On va se retourner vers Muriel Pénicaud. On revient, Madame la Ministre.
Oui.
Cette question du travail essentiel, Virginie,
alors,
elle travaille dans une voilerie.
L'hôtesse de caisse, l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie qui va chez les personnes âgées ou le chauffeur livreur qui va vous amener l'alimentaire, ils sont plus haut dans la liste de ce qui est indispensable pour la vie des gens tout de suite. On est d'accord que les voiles de bateau, on peut attendre quelques semaines. Après, il y a des situations de travail où il n'y a pas de danger du tout, parce que ça dépend des conditions de travail. Il y a des endroits où le travail vraiment il se passait. Je connais pas du tout comment se fait des voiles de bateau. Si on est nombreux, si on est serré sur un bateau, évidemment, c'est très différent de si on est sur des grands espaces. Donc, s'il y a aucun danger, bon, ben, on peut aller travailler. Si c'est compliqué à mettre en place des mesures de protection, moi, je serai intraitable sur les mesures de protection. Je suis là pour protéger les salariés. Point. Mais après, quand il n'y a pas de danger, on peut travailler. Et si il y a des, si on sait protéger, on peut y aller. Après, c'est le chômage partiel. Vous serez au chômage partiel. C'est pas non plus. Vous savez, le chômage partiel, moi, j'ai mis ça en place de façon massive à la demande du président de la République, du Premier ministre, pour sauver tous les emplois. Moi, je veux pas de plan de licenciement. L'important, c'est de pas être licencié, de garder son contrat de travail et de pouvoir repartir derrière avec des compétences. Voile de bateau, ça doit être une compétence super pointue, j'imagine. Alors, tout le monde s'improvise pas. C'est ça le plus important. Donc là, c'est un peu à apprécier au cas par cas. Donc, si votre employeur considère que, si le chef d'entreprise dit, ben là, on est, si les conditions du métier même permettent pas de le faire, ben à ce moment-là, ce sera le chômage partiel.
Dominique Méda, est-ce qu'on est quand même sur cette question de qu'est-ce qui est essentiel? On comprend que vous avez peut-être un avis.
Oui.
Quel est votre regard de sociologue? Est-ce que là, on est en train tous de se reposer des questions sur qui est vraiment essentiel?
Mais on voit bien qui est essentiel aujourd'hui. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais je trouve que votre discours est absolument pas à la hauteur de l'urgence. On a des internes en médecine qui supplient que les mesures de confinement soient beaucoup plus importantes. On a des pétitions qui sont en train d'être préparées, qui sont lancées par les hospitaliers qui disent qu'on va être débordés, exactement comme ce qui se passe en Italie. Donc il faut absolument restreindre. Je comprends pas comment vous pouvez dire qu'on peut continuer à faire des voiles de bateaux. C'est absolument invraisemblable. Il faut non seulement réduire l'activité au maximum et la réduire aux activités essentielles, vitales pour le pays, mais je pense qu'en plus il faut transformer notre économie en économie de guerre, c'est-à-dire réquisitionner des entreprises, des matériels, des biens pour fabriquer, parce que vous dites il y a des moments où il n'y a pas de danger du tout. Mais pas du tout, puisque vous dites vous-même qu'on n'a plus de droit au rassemblement de plus de 3 personnes, Il y a, bien sûr qu'il y a du danger, puisque tout simplement l'État n'est pas capable de nous procurer les masques de protection et les gels hydroalcooliques dont on a besoin. Donc il n'y a plus de Madame situation Mélan, où il n'y a alors, pas de danger.
J'ai un petit problème de méthode, c'est que moi je suis venue pour répondre, je veux bien vous répondre, j'ai des choses à vous répondre, mais moi je suis venue surtout pour répondre aux auditeurs.
Alors Muriel Pénicaud, permettez-moi.
Oui, vous là, permettez. Je suis pas vous... d'accord à beaucoup de choses que vous avez dites, mais
permettez-moi
moi,
justement
de répondre aux auditeurs.
Une question. Alors je vais vous poser, je vais ramasser tout ça parce que en réalité c'est vrai que ça revient. Beaucoup d'auditeurs posent cette question. Pourquoi ne prenez-vous pas, je le lis, hein, la même décision que le gouvernement italien, arrêter les entreprises non vitales? Voilà une question qui nous arrive.
On travaille avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, sur ce sujet. On est d'accord qu'il faut qu'on ait un service économique minimum qui permette d'assurer tout ce qu'il faut pour sauver les vies et tout ce qu'il faut pour assurer la vie quotidienne des gens. Encore une fois, si vous avez plus d'Internet, plus de téléphone, plus de quoi vous nourrir chez vous et plus de plomberie, vous allez avoir un problème. Donc on doit assurer la vie quotidienne des gens. J'ai essayé d'expliquer que quand on va de A à Z, c'est très imbriqué. Donc il faut pas, c'est facile de décider ça dans un bureau à une antenne, mais je dis que c'est un travail pragmatique parce que par exemple, comme je le disais, le textile peut se reconvertir. C'est ça aussi une économie de guerre. Il y a des gens qui sont en train de faire un autre travail qu'ils faisaient avant, mais qui va être utile au pays et utile à nous tous. Et c'est ça qui est en train d'être étudié. Demain matin, avec Bruno Le Maire, nous serons de nouveau en réunion téléphonique, bien sûr, avec les 90 secteurs en France. Et moi, tous les jours ou tous les deux jours, j'ai une discussion avec toutes les organisations syndicales et patronales. On discute de ça pour voir quels sont les secteurs et quels sont les domaines où il faut où c'est indispensable, parce que ça touche la vie des gens de façon essentielle. Simplement, je me méfie des listes qu'on décide dans un bureau, parce que je suis quelqu'un de terrain, et je vois que sur le terrain, il y a parfois des choses auxquelles on pense pas. J'ai parlé de l'emballage de carton, j'ai parlé de l'élagueur, devient un rôle essentiel. Et donc, c'est ça, il faut faire ce travail-là pour limiter, bien sûr. Bien sûr qu'on va limiter l'économie, c'est pas grave, mais il faut le faire en partant de la réalité de terrain et avec le dialogue social. Moi, je crois que c'est sur le terrain, avec les syndicats, les salariés aussi. Que
Muriel Pénicaud, on a des auditeurs beaucoup, beaucoup au standard. On a Louis qui est à Paris. Bonjour Louis, vous êtes chef d'entreprise et vous avez des salariés. Quelle est votre activité?
Oui, bonjour Madame la Ministre. Bonjour,
bonjour
Madame, merci.
Bonjour.
Merci beaucoup pour vos efforts et de me prendre à l'antenne. Je dirige une TPE en conseil en recrutement de cadres. Notre activité s'est éteinte depuis début mars. Donc j'ai 5 salariés cadres au forfait jour et un contrat de professionnalisation, convention Syntec. J'ai fait 2 demandes le 11 et 12 mars d'autorisation préalable pour mettre 2, puis après la globalité de mon équipe au chômage partiel au 30-03. J'ai pas reçu d'accord formel malgré les 3 relances par mail, malgré des tentatives d'appel au quotidien. J'ai déjà informé mes salariés vendredi soir qu'ils étaient donc au chômage à partir de demain. Le délai des 48 heures n'est pas respecté, comme vous l'avez dit et comme vous le martelez depuis 15 de jours. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je m'organise pour le plan de financement? Est-ce que j'aurai cet accord?
Parce que vous n'avez pas à mettre au chômage vos salariés. En fait, vous avez 30 jours pour la déclaration. Ça sera pris en compte à titre rétroactif. Surtout mon message, ne les licenciez pas, ne les mettez pas au chômage, gardez les compétences, ne les mettez pas en précarité, puisque sous 30 jours. En plus, dans votre métier, ils peuvent aussi faire une partie en télétravail. Je pense, par exemple, typiquement le sujet de monter des tutoriels sur le recrutement pour demain, sur une activité qui se fait en ligne. Dans les métiers de service, on fait beaucoup de choses. Il y a 8 millions de Français susceptibles de travailler en télétravail. Et de toute façon, le chômage partiel, qui n'est pas un chômage malgré son nom, en fait, d'ailleurs, le vrai nom, c'est activité partielle, qui est pris en charge par l'État, par mon ministère. Vous avez 30 jours pour le déclarer. Donc, pas d'inquiétude, vous faites l'avance et vous allez être remboursé. Les remboursements arrivent sous les 10 jours. Et les banques feront le relais entre les deux.
Pourquoi j'ai pas eu d'accord? Là, vous dites un délai sur 48 heures pour cette
activité
partielle.
Parce que mes services n'étaient pas dimensionnés. Enfin, on n'imaginait pas qu'on aurait une telle demande. Il y a 2 mois, on ne pouvait pas imaginer qu'on serait dans une telle crise. Donc, on a changé le serveur. Il accepte maintenant 3000 demandes minutes. Et c'est pour ça que j'ai donné un délai de 30 jours, comme ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté des employeurs, petits ou grands. Sous 30 jours, vous pouvez faire votre déclaration et en attendant, vous payez au SMIC ou à 84% de leur salaire net s'ils sont au-dessus du SMIC, vos salariés, vous serez intégralement remboursé de ce que vous leur versez.
Vous êtes satisfait, Louis, de la réponse? Vous avez une réponse complète?
Oui, donc j'entends qu'ils seront donc dès lundi en activité partielle. Et bien sûr, si on peut aider d'autres entreprises dans cette économie de guerre, on le fera. Rappelez-moi sur mon portable, madame. Vous pouvez compter
alors,
sur mon équipe.
Moi, j'ai une proposition à vous faire en ligne. C'est pas des cadres, mais le recrutement, on a un besoin immense. Là, pour que les Français puissent avoir pas simplement des pâtes et du riz, mais des produits frais. Quand même, quand on est chez soi... Le moral, c'est aussi pouvoir se cuisiner quand même des choses avec des produits frais, puis c'est la santé. On cherche 200 000 personnes pour le travail saisonnier, là, tout de suite. On travaille avec la Fédération nationale des exploitants agricoles. Pourquoi ? Parce que d'habitude, il y a beaucoup de travailleurs détachés. Là, il n'y en aura pas cette année. Ça peut être une chance. Mais il nous faut, des demandeurs d'emploi, des étudiants, d'autres qui sont disponibles, qui sont prêts à venir travailler. C'est pour aider. Je vous mets en contact. Il y a une plateforme avec Pôle emploi. Tous les recruteurs qui peuvent aider... de toute la France, on peut venir et ça va aider, puisque là, ça arrive tout de suite, les fraises, les asperges, et on a besoin de bras.
Alors, voilà, l'annonce est passée. On va venir, parce que vous faites des annonces sur le recrutement, on va parler des mesures de protection des salariés. Mais d'abord, puisque là on en était au chômage partiel, Dominique Méda, le chômage partiel, ça veut dire être chez soi du jour au lendemain, on ne travaille plus. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre ? Vous qui êtes sociologue, qui êtes spécialiste du travail, on sait bien que les Français sont accrochés à leur travail.
Absolument, on est même parmi, on est un des pays où pour lequel le travail est le plus important, et je pense en effet que ça va troubler énormément de personnes, bouleverser énormément de personnes, qu'elles vont, vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent que le travail c'est vraiment structurant, c'est ce qui se fait lever les gens ce matin, ça leur fait rencontrer des personnes, il y a du lien social, et donc en effet je pense que d'une certaine manière notre appétence pour le travail va peut-être en ressortir encore plus importante, alors même qu'on atteignait déjà des sommets. Il n'en reste pas moins. Pardonne-moi de revenir à ma marotte, mais que là, je pense que vraiment le travail doit être réduit à son minimum, y compris parce qu'on voit bien qu'il y a une inquiétude du gouvernement, que l'économie soit extrêmement, que l'économie soit très en récession, qu'on perde des compétences essentielles. Mais j'ai bien l'impression, à voir ce qui se passe, à beaucoup surveiller ce qui se passe en Italie et ce qu'on nous raconte sur l'Italie. Étant donné qu'on n'a que quelques jours de différence avec eux, hein, ils ont 8 jours d'avance sur nous, qu'on va être obligé de prendre ces mesures, donc autant s'y préparer. Et se préparer, en effet, à organiser une économie de guerre avec des secteurs, avec secteurs qui vont...
Oui, mais cette inquiétude-là, on va avancer dans le débat parce qu'on a énormément d'auditeurs et c'est vrai, on a parlé de cette inquiétude-là. Si vous voulez, on continue le débat avec nos auditeurs. Hein, si vous êtes d'accord. Justement, dans le fait que le gouvernement là est en train de dire allez au travail si vous le pouvez, s'il y a des mesures de protection. Muriel Pénicaud, il y a beaucoup de salariés qui disent ben oui, mais moi je n'ai pas les mesures de protection suffisantes et qui ont envie d'exercer leur droit de retrait. On en a vu, hein. On a vu les facteurs. Alors quelles sont ces mesures de protection? Que devraient mettre en place les employeurs? Est-ce que ça varie selon les entreprises? Est-ce qu'il y a un guide de bonne pratique? Est-ce qu'il y a des gens qui vont contrôler ça quand les gens vont retourner au travail comme vous l'espérez?
Alors, il faut des guides de bonne pratique, vous avez raison. Ils doivent absolument assurer, en plus des mesures de protection qui existent déjà, bien sûr, hein, les entreprises ont une responsabilité dans la santé et la sécurité de leurs salariés. Là, il y a des mesures en plus à prendre. Très clairement, il faut que les 5 gestes que les gestes barrières puissent être exercés. Et principalement, en particulier, il faut pouvoir se laver les mains avec du savon ou du gel très régulièrement et il faut pouvoir être à plus d'un mètre de ses clients, collègues, fournisseurs, ou bien avoir des mesures de protection. J'ai donné l'exemple du plexiglas pour les caisses de supermarché. Donc ça, c'est impératif. Comme c'est assez différent d'un métier à l'autre. Moi, je connais bien l'agroalimentaire, j'y ai travaillé. Ça va pas être les mêmes protections pour que les chauffeurs-livreurs, pour les dockers, pour les auxiliaires de vie, pour les charpentiers dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est en train d'être fait là dans chaque métier. Et je pense qu'il est indispensable pour que et le salarié et l'entreprise, notamment collective, se disent là, on peut travailler en sécurité.
Et quand
si ces conditions
ne
sont pas réunies, eh ben ces conditions réunies, on peut pas travailler et on met les salariés en chômage partiel. Moi, je veux pas prendre de risques sur la santé des salariés. Je dis juste qu'il y a une chaîne, comme il y a une solidarité qu'on voit au quotidien, mais il y a aussi une sorte de solidarité économique parce que beaucoup de métiers sont dépendants, pas tous. Il y a des métiers qui sont pas, qui peuvent attendre quelques semaines. Il y en a beaucoup quand même. Il faut quand même qu'une partie des gens travaillent. C'est d'ailleurs les héros invisibles du quotidien. Il faudra pas l'oublier, il faudra reconnaître ce qu'ils font, mais ça sera pas au prix de la santé, jamais. Et donc ces guides de bonne pratique,
on
ils
va
sont essentiels, et là où ils sont pas encore en place, eh ben on attend. Il faut d'abord les mettre en place.
Alors on va au standard, et Frédéric nous appelle de Périgueux. Bienvenue Frédéric dans le téléphone sonne.
Bonjour, merci.
Vous êtes supposé être un héros du quotidien, puisque vous êtes infirmier également.
Oui, je suis supposé être ça, oui. Mais comme je travaille dans un bloc opératoire où l'activité a été beaucoup réduite, mon employeur m'a demandé de rester chez moi, comme une grosse partie de l'équipe, la moitié de l'équipe à peu près. Et en prenant le temps qui nous obligeait à rester chez nous, en prenant ça sur les heures sup et pour certains sur les congés annuels. Donc je voulais savoir si c'était légal ou pas.
Eh bien, on va poser la question à la ministre du Travail. J'ai quand même une interrogation en vous écoutant. Vous ne travaillez pas en hôpital public ?
Non.
D'accord. Vous travaillez pour
Pour le privé, oui.
Pour une clinique privée, d'accord. Muriel Pénicaud, encore une question pour la ministre du Travail. Est-ce que l'employeur de Frédéric a le droit, en gros, de lui demander un effort de guerre, hein, puisqu'il lui demande une mise hors pot d'emblée en prenant sur ses heures sup ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, effectivement, toutes les opérations pas urgentes et indispensables ont été reportées pour libérer toutes les capacités des hôpitaux, des cliniques, du monde médical, des soignants. Et donc, il est possible aussi que vous soyez appelé, si vous êtes infirmier, à devenir pendant quelques semaines infirmier dans une spécialité qui est différente que la vôtre, mais qui ne demande pas une spécialisation trop importante qui va vous permettre de contribuer. À mon avis, c'est ça qui va se passer, parce que se priver d'un seul soignant en ce moment dans le pays, ça paraît un peu bizarre. On va avoir besoin de beaucoup de soignants, aussi bien des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes et l'ensemble du personnel médical ou paramédical.
Mais alors, est-ce que son employeur...
Sur le droit du travail.
Oui.
Sur le droit du travail. Ce que j'ai proposé dans la loi cette nuit, et qui a été voté par l'Assemblée nationale, c'est que déjà pour discuter, par exemple, est-ce qu'on prend une semaine de congé ? Évidemment, on va supprimer les congés de personne, hein, c'est évident. Mais si est-ce qu'on prend une semaine de congé là pendant qu'on est inoccupé ?
C'est-à-dire, est-ce que l'employeur l'impose ou pas à ses salariés ?
Voilà. Et donc, moi, j'ai dans la loi, il a déjà le droit de l'imposer, mais en ayant en prévenant un mois à l'avance. Là, ce qu'on a proposé dans le contexte, c'est que ça soit un accord entre l'employeur et les syndicats pour si éventuellement mobiliser des congés pour les prendre tout de suite là dans les semaines qui viennent pour ceux qui n'ont rien à faire. Mais il faudra un accord syndical, parce qu'il y a déjà des entreprises où ça se fait, où tout le monde se dit bon là pendant qu'on peut pas travailler, on va peut-être prendre une semaine de congé. C'est pas les congés comme d'habitude, mais c'est on supprime pas le droit.
Mais comment ça se passe dans les petites entreprises, Muriel Pénicaud?
Ça c'est la même chose. Dans les petites entreprises, faut discuter avec les salariés. Si on n'a pas de syndicat, on discute quand même avec les salariés. On peut pas l'imposer. Et on supprime évidemment aucun droit pour les congés. Après, les heures supplémentaires, elles ne sont payées que quand elles exercent, elles existent. Les heures supplémentaires ne sont jamais payées s'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Donc ça, on ne peut pas grand-chose. Moi, je pense que quand on est dans le personnel médical, vous devriez surtout pousser votre employeur, faire vous-même, et dire qu'est-ce qu'on peut proposer nous dans la contribution générale, parce que vous avez un métier super utile. Hein, franchement.
Est-ce que l'employeur a le droit de demander aux salariés de prendre des RTT ou de prendre des jours sur son compte épargne-temps? Vous dites si c'est du congé payé, ça doit être négocié, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres jours là?
Oui, on peut mobiliser alors des jours de RTT et des jours de CET. Sachant que les jours de RTT, c'est surtout des cadres qui sont plutôt ceux qui sont en télétravail.
Mais quand vous dites mobiliser, c'est l'employeur qui peut l'imposer ?
Oui, il peut imposer la date. Mais ça, c'est déjà, il y a déjà beaucoup de jours de RTT qui sont imposés par l'employeur. Hein. Et donc ça sera dans une des ordonnances qui vont suivre la loi, qui est en train d'être ratifiée. J'en parle d'ailleurs dès demain avec les partenaires sociaux sur les modalités.
Dominique Méda, vous qui regardez l'organisation du travail dans les entreprises, est-ce que vous pensez que ce virus, il est en train de bousculer aussi ces organisations, ces relations employeurs-salariés? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'on en gardera des traces?
Ce qu'a dit la ministre tout à l'heure m'a semblé très important quand elle dit si les conditions sont pas réunies, alors il ne faut pas aller travailler. Ça veut dire que les gens à qui on demande d'aller travailler lorsque les conditions ne sont pas réunies, ils peuvent exercer leur droit de retrait, et ça c'est très important parce qu'on sait très bien, on lit tous qu'il y a des entreprises où on demande vraiment aux gens de venir travailler ou bien où on refuse le fameux droit de retrait. Donc ça c'est très très important. Et alors quand la ministre parle de dialogue social, oui, c'est très important également, il faut qu'on se parle. Bon, il faut pas oublier que pour l'instant c'est difficile de se parler, c'est difficile de se réunir et moi j'espère bien en effet que tout ça va nous entraîner. De toute façon, il y aura des changements énormes dans le monde du travail après cette crise, mais j'espère bien que ça va nous entraîner vers des relations de travail vraiment plus fortes, plus denses, parce que là on voit bien qu'on est obligé de discuter, tellement les salariés ont peur, en effet, ont peur d'attraper ce virus. Et dernier point, la ministre a dit tout à l'heure que toutes les conditions devaient être réunies. Moi, il me semble que, enfin, c'est pas moi du tout qui le dit, ce sont les médecins, hein, qu'il faut également que les personnes portent des masques lorsqu'elles sont en contact avec le public.
Bah, on va, alors, est-ce que...
Trois réactions là-dessus. Oui. D'abord, je crois qu'il faut être inventif pour le dialogue social, et dans la loi de cette nuit, on permet qu'il soit fait à distance, évidemment, pour des raisons que tout le monde comprend. Deuxièmement, attention, ce que j'ai dit ne conduit pas forcément au droit de retrait. J'alerte les salariés. Le droit de retrait, c'est un acte individuel, jamais collectif. Et s'il y a un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, là, quand il y a les conditions sont pas réunies, il faut que l'employeur se réunisse avec les syndicats, avec les salariés, pour mettre en place les conditions ou mettre les personnes en chômage partiel. Le droit de retrait, attention, c'est le juge qui évaluera après coup si c'était valable. Et les cas sont rares, hein. Donc moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux la discussion collective et puis prendre les décisions que pousser les gens à faire du droit de retrait au risque d'avoir des problèmes individuels, et en attendant, ils ont pas de salaire. Hein.
Alors,
et tandis que donc il faut faire attention.
On va aller au standard.
Vous êtes d'accord avec vous, ça va changer les relations de travail, et j'espère, comme vous, que ça va amener à des relations de travail plus à hauteur d'homme et plus centrées sur l'essentiel et la relation humaine.
On va aller au standard, si vous voulez bien. Nous avons Floriane qui nous appelle de la Loire. Floriane, vous voulez nous parler? Bonsoir.
Bonsoir.
Du cas de votre maman?
Oui, tout à fait. Je vous appelle en fait pour vous expliquer le cas de ma maman. Donc, elle a 70 ans. Elle travaille encore dans une pharmacie. Elle est comptable. Elle n'est pas du tout en contact avec les clients, mais elle est comptable. Elle est en contact avec ses collègues, du coup, qui sont pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Sa patronne lui a dit cette semaine de rester chez elle. Mais comme la situation dure, elle se demande si elle doit poser des vacances, des congés. Et donc, ma question était la suivante. Quelle démarche doit-elle effectuer? Est-elle obligée de poser des congés? Ou est-ce qu'elle peut bénéficier du chômage partiel dans la mesure où c'est une personne à risque puisqu'elle a 70 ans.
Est-ce que je peux me permettre, si vous voulez, Floriane, oui, s'il vous plaît, est-ce qu'elle peut imaginer faire son travail, Floriane, votre maman, qui a plus de 70 ans, en télétravail? Est-ce qu'on peut être comptable en télétravail?
On pourrait, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait les compétences et les capacités, et je ne suis pas sûre que les logiciels aussi qu'il faille installer, elles soient en mesure de les installer chez elle, en fait. Voilà.
Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous n'êtes pas la seule avec une maman qui a des problèmes pour installer l'ordinateur et avoir les compétences.
Merci de votre question,
Madame la ministre,
Muriel Pellicot. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, puis on s'inquiète aussi pour nos un peu plus anciens, parce que voilà. Alors, première chose, il y a beaucoup de comptables qui travaillent en télétravail. Si elle n'est pas trop habituée, il y a des effets de génération aussi à travailler en télétravail. Il y a peut-être, je sais pas, un jeune qui peut l'aider à installer son télétravail, et après l'autonome, j'en sais rien. Si ça n'est pas possible, non, on n'est jamais obligé de poser ses congés, ça c'est clair, je l'ai dit, il faut un accord collectif. Par contre, pour les personnes dites vulnérables, c'est-à-dire qui ont une maladie chronique, diabète important, cardiovasculaire, ou qui ont plus de 70 ans, s'ils ne peuvent pas exercer leur travail, à ce moment-là, l'arrêt maladie, l'arrêt de travail, sans être malade, est de droit. C'est ce qu'on a mis dans la loi, et j'ai confirmé cette nuit dans l'Assemblée nationale que les personnes seraient indemnisées au moins à 90% de leur salaire. Donc elle se met en, elle aura un arrêt de travail, elle a même pas besoin de certificat médical. Elle va sur le site Amélie et elle touchera les indemnités maladie sans être malade. C'est un cas d'exception, mais à crise exceptionnelle. Donc c'est la meilleure solution si elle ne veut pas travailler en télétravail.
Muriel Pénicaud, dans l'actualité, on a Auchan qui va verser une prime de 1 000 euros à 65 000 salariés français. C'est la première entreprise qui répond à cet appel du gouvernement. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ?
Écoutez, je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus compliqué pour ceux qui vont travailler, qui travaillent pour nous tous finalement, hein, pour qu'on ait les biens et les services dont on a besoin. La vie est quand même plus compliquée. Les transports, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de restaurant à midi. Alors, on a autorisé la restauration collective. Les restaurants d'entreprise sont autorisés, mais avec des plages de temps, il faut être à 2 mètres d'écart. Enfin, là, c'est plus compliqué d'aller travailler, on va être d'accord. Hein. C'est plus compliqué de rester chez soi, c'est plus compliqué de travailler. C'est une crise, c'est difficile pour tout le monde. Et donc, il y a des entreprises qui souhaitent pouvoir verser une prime, et ils ont tout à fait le droit, bien sûr, une prime à leurs salariés pour dire, ben voilà, on apprécie ce que vous faites, c'est une manière de reconnaître les efforts que vous faites. Je pense qu'il y en aura d'autres qui le feront, effectivement.
Dominique Méda, tout à l'heure, vous parliez de changements énormes dans le monde du travail. À quoi pensiez-vous ? À venir.
Ben là, par exemple, pour rebondir, sur ce qu'on vient de dire, il me semble que toutes ces personnes qui sont en première ligne, qui prennent d'énormes risques, elles mériteraient non seulement des primes, mais tout simplement une augmentation de salaire. Je voudrais faire remarquer que celles qui sont en première ligne, c'est très souvent des femmes. Les caissières, ce sont souvent des femmes. Les aides-soignantes, les infirmières, ce sont très souvent des femmes. Il y a eu la revue The Lancet qui a fait un très bon article il y a peu de temps là-dessus pour montrer l'impact genré différencié du virus sur les hommes et les femmes. Donc je trouve que ça met en évidence ce qui nous arrive à la fois les femmes en première ligne, on voit en même temps qu'elles sont sous-rémunérées, souvent les caissières, on sait qu'elles sont à temps partiel. Donc si on pouvait en profiter déjà comme première mesure pour revoir tout ça, revoir la sous-rémunération de ces femmes qui aujourd'hui prennent d'énormes risques, ce serait extrêmement bien.
Muriel Pénicaud, les femmes en première ligne, vous êtes d'accord ?
Ah non, j'ai passé une loi pour l'égalité salariale des femmes et des hommes et l'égalité de chances de carrière. Je vous confirme, il y a encore du travail. Mais cette loi, elle oblige à avoir des résultats d'ici 3 ans. Il y a un index que doivent publier toutes les entreprises pour mesurer la situation. Et elles sont obligées de prendre des mesures correctives. On avait commencé ce travail-là juste avant la crise. Eh ben, je vais le reprendre très volontiers au sortir de la crise avec les employeurs, les syndicats, parce que aujourd'hui, effectivement, il y a des métiers qui sont aujourd'hui mal rémunérés, et c'est souvent des métiers difficiles, et en plus avec une inégalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est un combat qui est peut-être en pause pendant quelques semaines, mais pas longtemps, et on en reparlera effectivement juste après la crise.
Muriel Pénicaud, Madame la Ministre du Travail, merci d'avoir été avec nous dans le téléphone sonne. Et merci à vous également, Dominique Méda, de nous avoir rejoint pour répondre aux questions des auditeurs. Le téléphone sonne va continuer à partir de 19h20. Dans la deuxième heure, on va s'intéresser au confinement dans les familles, au sein des couples. Et là, nous aurons une psychologue, une médiatrice et un avocat au bout du fil pour vous répondre, pour parler des situations qui peuvent devenir difficiles. Mais d'abord, on va s'offrir une petite bulle, si vous voulez bien, de chaleur humaine. Laissez-moi faire sonner cette fois le téléphone chez une artiste. Je suis sûre que vous allez reconnaître le grain de la voix, le pétillant du ton. Bonsoir Olivia Ruiz.
Bonsoir.
Ah, merci, ben oui, voilà une voix qu'on reconnaît bien. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Comment allez-vous ? Comment se passe ce confinement pour vous ? Où êtes-vous ? Les questions habituelles qu'on se pose tous. Hein.
Ben oui, ça se passe pas si mal parce que j'ai pu me rapprocher de mon sud chéri. Du département de l'Aude que j'aime tant. Alors c'est à la fois très frustrant d'être à quelques kilomètres de ses parents et de les protéger en restant loin d'eux, et en même temps c'est rassurant de pas être si loin que ça non plus. Et puis un petit peu d'air pur pour un petit garçon de 4 ans, c'est toujours mieux que de rester à Paris.
Et donc ce temps, vous le passez, alors c'est plutôt donc une bulle près de vos proches. Est-ce que ce temps, c'est aussi un voyage intérieur ? Est-ce que il y a besoin de meubler de l'ennui ? Comment, pour vous, c'est difficile ou bien au contraire ?
Bah, je pense tellement aux gens qui sont dans des situations terribles, à nos soignants, aux gens qui sont dans la rue et qui sont encore si peu protégé, que c'est vrai que voilà, il y a quelque chose, il y a une nécessité d'écrire, même si finalement nous on n'est pas si mal que ça. D'abord, pour occuper un enfant de 4 ans, on est on est mobilisé, donc il y a quelque chose qui, déroule.
Vous avez entendu la charge mentale des femmes, oui, ça c'est sûr, hein, on va en parler
aussi.
Oui,
oui, ça c'est sûr, mais en ce moment-là, elle est presque belle, parce que c'est aussi l'occasion de se retrouver, c'est à ça, je crois, que j'essaye de me raccrocher, et puis la lecture, et puis l'écriture. C'est vrai que tout d'un coup, le besoin d'évasion est si grand que ça répond pleinement à ça.
Alors justement, je vous apprêtiez, je crois, à sortir votre premier roman, hein, oui, chez Lattès, et puis là, bon, la sortie est interrompue par le virus. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire là, des textes de chansons, un second roman?
Oui, effectivement, là, je me suis mise à l'écriture d'un second roman qui est un petit peu un écho à la Commode au tiroir de couleurs, celui qui devait sortir en avril et qui sortira
un peu plus tard,
en mai ou plus tard, voilà. Donc voilà, c'est encore une fois teinté de cette région qui est l'Occitanie, que j'aime tant, de ces personnages en couleur complètement atypiques, un peu fous. Et c'est vrai que se plonger dans ce monde-là, qui me rappelle aussi mon enfance, puisque j'ai grandi dans un café avec ce qu'on appelle chez nous des figures, des personnages tellement riche que même dans des romans on n'y croirait pas, et dans des films non plus. Donc voilà, me replonger dans cet univers-là, un retour vers l'enfance en même temps que je le fais en jouant avec mon fils 8 heures par jour, ce qui nous arrive.
Ah oui, c'est 8 heures par jour.
Rarement d'habitude. Ben oui.
Et si vous deviez, parce que vous dites que vous lisez, si vous deviez nous faire un conseil lecture, hein, qu'est-ce qui nous ferait du bien?
Alors, je sais pas si ça fait du bien spécialement, mais en tout cas, pour se plonger dans quelque chose d'haletant et voilà, dans une immersion totale, il y a Undercover que j'ai commencé il y a quelques jours d'Amaryllis Fox. Et voilà, c'est une jeune femme qui, à l'âge de 20 ans, a été recrutée pour entrer dans la CIA. La seule femme qui a été à la fois une agent. Comme on appelle les légendes dans la série culte de Canal+,
ah oui,
et qui en même temps est devenue
un agent
maman.
Secret.
Voilà, un agent secret et en même temps un agent très très secret.
D'accord.
Et en même temps qui devient maman. Enfin voilà, un destin complètement atypique. Voilà.
Alors redonnez-nous s'il vous plaît le titre, l'auteur, allez-y.
Alors ça s'appelle Undercover. Oui. Il y a un sous-titre qui s'appelle Avoir 20 ans à la CIA. Et c'est Amaryllis Fox.
Eh bien, c'est bien noté. Merci Olivia Ruiz de ce petit
merci
coup de fil. Eh bien, prenez soin
que
de vous, prenez soin
prenne...
des vôtres.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Restez bien chez vous tous. Prenez soin de vous. Et puis serrons-nous les coudes.
Serrons-nous les coudes. Allez, à bientôt.
Bonne soirée.
À
bientôt.